I got glue and tour it put I to the pipe of it.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit te pas m'engarer, pas m'engarer.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite sauce a perdu une belle plume de haut. Pas m'engarer, pas m'engarer.
Mais si l'amour prend la racine dans mon jardin, j'en planterai. Dans mon jardin, j'en planterai, mais aux quatre coins. J'en ferai pas, aurons-nous deux qui en auront besoin.
Elle est pas mal.
Et bonjour et bienvenue
et bonjour.
Dans l'écho du parquet, c'est aujourd'hui la numéro 40 et la numéro 40 ça veut dire que c'est la dernière de cette saison 2024-2025, deuxième saison de l'écho du parquet.
Enregistré en studio, en direct de Radio Méga.
Voilà, Radio Méga qui est une des trois radios sur laquelle vous pouvez écouter l'écho du parquet en si vous habitez en Drôme-Ardèche, avec Fréquence 7 et Radio Saint-Ferréol. Et sinon, vous nous écoutez peut-être aussi sur notre audioblog Arte Radio. Et pour cette dernière, on va parler de quoi ?
Eh bien, on va parler des bals dans l'entre-deux-guerres. Voilà, on a avec nous Sophie Jacotot qui est du coup historienne et danseuse. Et voilà, ça sera le sujet du jour qui est aujourd'hui un sujet d'histoire, mais quand même, on va parler de bal, on va parler de musique, et puis du coup, on a une petite playlist adaptée.
Eh bien, on commence.
Thank you. Donc c'était Émile Parisien et Vincent Perani.
Voilà, un morceau qui s'appelle Dancer in Love, qui est un titre de Duke Ellington et qui, pour trois raisons différentes, est une très bonne introduction à ce qui va suivre. Parce que d'abord, Émile est très parisien. Deuxièmement, parce que ça évoque des danseurs venus d'Amérique. Et troisièmement, parce que ça vient d'un album intitulé Belle Époque, soit la période que clôt la Première Guerre mondiale et qui se situe donc juste avant celle sur laquelle a beaucoup travaillé notre intervenante du jour, Sophie Jacotot, dont le travail de thèse a été publié en 2013 aux éditions du Nouveau Monde sous le titre « Danser à Paris dans l'entre-deux-guerres, lieu, pratique et imaginaire des danses de société des Amériques 1919-1939 ». Sophie, peut-être, est-ce que pour commencer tu peux te présenter à la fois en tant qu'historienne et en tant que danseuse.
Oui, bonjour tout le monde. Alors, en tant qu'historienne, donc, j'ai mené cette recherche qui était ma recherche de thèse, que j'ai commencée il y a plus de 20 ans, soutenue en 2008 et donc publiée en 2013. Recherche donc en histoire culturelle. J'ai travaillé sur le bal, mais dans un, voilà, dans un contexte d'histoire culturelle. Et puis petit à petit, bah, j'ai continué mes activités de recherche tout en m'impliquant de plus en plus dans ma pratique de la danse. Et aujourd'hui, je suis intermittente du spectacle et danseuse. Et donc, la recherche, disons que c'est un peu plus loin de mon quotidien, même si mes travaux sur le bal continuent à être les rares travaux sur l'histoire du bal. Et donc voilà, je suis invitée régulièrement à en parler. J'ai monté une conférence dansée autour de ce travail. Mais disons que maintenant, j'évolue plus dans le champ de la danse contemporaine en tant qu'interprète ou assistante chorégraphe. Voilà. Et puis, je suis danseuse de bal par ailleurs, principalement de tango, mais j'aime aussi tout type de bal en vérité.
Est-ce que tu pratiques le bal folk aujourd'hui?
Oui, ça m'arrive, ouais. C'est pas ma pratique principale, mais ça m'arrive, notamment quand je suis invitée par des amis qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en bal trad et qui me disent là, il faut vraiment y aller, il y a des super groupes, et donc j'y vais volontiers. Je suis quand même très familière des danses en couple qu'on danse au bal trad, beaucoup moins des danses collectives, à part les grands classiques, quoi. Donc voilà, donc je suis pas très connaisseuse, très pointue sur toutes les danses collectives, mais je rentre facilement dans les danses en général.
Ok, alors puisqu'on est dans un studio de radio, on va se la jouer France Culture et faire la même chose que dans l'émission La Méthode Scientifique, qui a pour habitude de demander à un thésard de résumer en 30 secondes ou une minute son travail de thèse. Mais est-ce qu'on peut peut-être commencer par ça? Est-ce que tu peux résumer ton travail de thèse, ce sur quoi tu as travaillé et qu'est-ce que tu as pu montrer à ce sujet?
Ok, je vais essayer, j'ai Vas-y. Jamais fait cet exercice.
Mais... en fait, en vrai, tu as droit à plus de 30 secondes hein, quand
okay,
même.
Ok, ça marche. Alors, ma thèse donc, portait sur les danses de bal dans l'entre-deux-guerres. J'ai beaucoup travaillé sur Paris, c'est là où j'habitais à l'époque, avant de venir m'installer dans la Drôme. Et donc mes sources étaient là, quoi. Donc j'ai vraiment travaillé sur Paris, aussi parce que Paris est un lieu, une plaque tournante hein, dans cette histoire des bals, à cette époque-là en tout cas. Donc la pratique des danses de bal, en sachant qu'à cette époque, ce qui caractérise cette époque de l'entre-deux-guerres, donc après la Première Guerre mondiale et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est une arrivée massive de rythmes, de musique, de danse du continent américain. Donc à la fois les États-Unis, mais aussi Cuba, le Brésil, l'Argentine et les Antilles françaises. Donc toutes ces danses qui vont irriguer les bals dans lesquels, jusqu'à la Première Guerre mondiale, dans les bals urbains, on pratiquait justement beaucoup de danses qui venaient d'Europe orientale, qui sont en fait celles qu'on danse aujourd'hui, les danses de couple qu'on danse aujourd'hui dans les bals trad, bals folk, polka, mazurka, valse, scottish. On dansait aussi un peu des danses collectives encore jusqu'à la Grande Guerre, des contredanses, enfin héritières des contredanses. En milieu rural, selon les régions, des danses régionales. Et puis, avec cette arrivée massive des nouveaux rythmes, des nouveaux mouvements, des nouvelles danses des Amériques, y a une véritable révolution qui se passe dans les bals urbains et puis en fait assez rapidement en milieu rural aussi, où ces danses vont se diffuser. Donc ces danses, c'est quoi? C'est les danses jazz. Donc les danses jazz, à l'intérieur de ça, c'est la grande famille du jazz. Il y a une danse qui est principalement dansée, c'est le foxtrot, pendant toute la période des années 20 et 30. Et puis il y a des danses qui vont être dansées moins longtemps, mais qui ont peut-être plus marqué les imaginaires, comme le charleston, par exemple, le shimmy, le black bottom, voilà, toutes ces danses-là qui font partie de cet univers du jazz. À côté de ça, il y a une danse qui est beaucoup dansée dans l'entre-deux-guerres, qui est vraiment... autant que le foxtrot un signe de modernité, on appelle ces danses-là les danses modernes, hein, à l'époque. Donc il y a le tango, donc le tango qui vient du Rio de la Plata, donc Buenos Aires, Montevideo, donc Argentine, Uruguay. Et puis il y a d'autres danses comme la samba qui va avoir une mode un peu éphémère dans les années 20 et revenir après dans les années 50 sous une autre forme. Les danses plutôt dans fin des années 20, années 30, les danses caribéennes comme la rumba cubaine et la biguine, donc plutôt des Antilles françaises, hein, Martinique, Guadeloupe.
D'accord. Donc on va explorer en détail ce tableau de des danses de l'époque et comment il est impacté par ce mouvement venu des Amériques. Mais d'abord, le préalable, évidemment, c'est en tant qu'historienne, quelles sont les sources sur lesquelles tu peux travailler pour explorer ce monde de la danse dans l'entre-deux-guerres?
Alors, c'était assez particulier, ouais, par rapport à la méthodologie, effectivement, historienne. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher un peu partout, là où il y avait des sources là-dessus. Moi, j'ai commencé par aller essayer de mener des entretiens avec des gens qui étaient encore vivants. C'était pas évident. La plupart de mes témoins... avait tendance à confondre l'après-Seconde Guerre mondiale avec l'après-Première Guerre mondiale. Donc, c'était assez difficile de démêler tout ça. Donc, après avoir mené, je ne sais plus, une dizaine ou une quinzaine d'entretiens, je me suis dit que ça ne suffisait pas, évidemment pas. Et donc, je suis allée voir des sources de nature très diverses. Donc, à la fois des sources d'archives proprement dites. Et ça, ça a nourri toute la partie de ma thèse et de mon livre qui concerne les lieux de danse. Donc des archives administratives sur l'ouverture, la fermeture des bals, les lieux comme des restaurants ou des cafés qu'on aménage en dancing, parce qu'on disait comme ça à l'époque, dancing. Donc c'était un lieu où on pratiquait les nouvelles danses, où il y avait donc un orchestre de danse, hein, puisque dans ma période, il est quasiment... inimaginable de danser sans la présence de musiciens ou de musiciennes, même si ça se fait un tout petit peu à la fin de ma période avec des disques, mais voilà, c'est très très rare. Donc voilà, des archives administratives, ça peut être aussi, donc par exemple, il y a des archives qui sont celles de la préfecture de police qui surveillent en fait les bals, puisque ce sont des lieux où ils peuvent se passer des choses qui rentrent dans le cadre de la surveillance policière. Trafic de drogue, corruption, des mœurs et autres, prostitution et autres. Ça peut être aussi des archives de l'assistance publique. Alors c'était un peu étonnant, mais c'est les hôpitaux de Paris, à l'époque assistance publique, prélevaient une taxe sur tous les loisirs, donc à la fois les théâtres, les cinémas, mais aussi les bals, qui étaient d'ailleurs les plus taxés par rapport aux autres loisirs, avec l'idée qu'on prélève sur ceux qui s'amusent pour donner aux pauvres, aux indigents, aux gens qui sont à l'assistance publique. Donc ces archives, elles sont hyper riches aussi parce qu'elles permettent de savoir combien il y avait de gens dans les bals par soir. Enfin voilà, des informations quantitatives super intéressantes pour comprendre comment fonctionnaient ces lieux. Donc ça, c'est pour les lieux, disons. Pour les pratiques elles-mêmes, là, je me suis intéressée à plusieurs magazines spécialisés. Donc c'est un peu comme vous avez une émission spécialisée sur la danse de bal. À l'époque, il y avait plusieurs magazines spécialisés, des revues spécialisées sur les danses dites modernes, c'est-à-dire les danses de bal. Et où donc on avait à la fois des descriptions, des comptes rendus de bal, des comptes rendus de musicaux aussi, de nouveaux disques qui paraissaient, des méthodes pour apprendre à danser, des méthodes écrites sur papier, quoi, avec des petits schémas, enfin vraiment des revues très riches en fait, écrites par des professeurs de danse ou par des musiciens de danse. Donc ça a été assez nourrissant. J'ai été voir aussi du côté de la presse générale, puisque bon, j'insiste là-dessus, mais on a peine à l'imaginer aujourd'hui, mais le bal dans l'entre-deux-guerres, c'est un loisir de masse, c'est un loisir qui est vraiment pratiqué par tout le monde, toutes générations confondues, tous milieux sociaux confondus. Et donc, c'est un thème qui revient souvent dans la presse généraliste aussi.
Y compris hors de Paris, tu dis, c'est pratiqué partout, ouais. etc. Mais
ouais, le bal, dans toutes ses formes, oui. C'est vraiment en fait, oui, la danse fait partie du quotidien, ou en tout cas, elle est présente de façon hebdomadaire, on pourrait dire. Enfin, c'est vraiment, on danse pour toutes les fêtes exceptionnelles, mais on danse aussi régulièrement. Enfin, c'est vraiment l'activité, un des loisirs les plus répandus, et aussi parce que c'est aussi le loisir où on fait connaissance avec les gens de notre classe d'âge, où on fait des rencontres amoureuses. C'est le premier lieu de rencontre conjugale jusque dans les années 70, le bal. Donc c'est quand même très, très fort. C'est le lieu où la jeunesse se rassemble. Mais dans l'entre-deux-guerres, comme je vous le dis, c'est très intergénérationnel aussi. Donc voilà. Donc tout ça, ça transparaît aussi par la présence médiatique de cette thématique dans l'entre-deux-guerres. Et puis après, y a tout un tas de... d'autres documents. Par exemple, je suis allée voir du côté des romans, des films de l'époque. J'ai vu énormément de films. La scène de bal, c'est un cliché, quoi. Mm-hmm. C'est un poncif de films de l'entre-deux-guerres. Enfin, donc aussi pour comprendre les imaginaires qui se sont construits autour de ces danses, les clichés, comment on construit un imaginaire. Par exemple, je parlais du Charleston tout à l'heure, comment aujourd'hui on associe la belle
l'entre-deux-guerres.
Ouais, je voulais parler des années 20, les années folles,
Les années folles,
au Charleston, alors que dans les fêtes, ça n'a pas été tant dansé que ça, mais d'un point de vue médiatique, ça a été beaucoup, beaucoup repris dans les films, dans des clips vidéo de l'époque. On pourrait dire dans les actualités cinématographiques, enfin dans la presse. Donc ça marque fortement les imaginaires, de même que certaines oppositions entre alors c'est pas tant milieu rural, milieu urbain à l'époque. Ce qui intéresse beaucoup, c'est l'opposition entre classe populaire et élite, les bals des élites, les bals des classes populaires qui sont souvent dans le cinéma notamment représentés comme étant deux milieux complètement imperméables, alors que dans les faits, à travers des témoignages, on se rend compte que ça circulait beaucoup plus que ce qu'on peut penser aujourd'hui.
On poursuit peut-être avec des trucs un peu plus particuliers, ou est-ce que tu veux mettre de la musique entre-temps ?
Non, vas-y, alors petite pause musicale.
Avec vous allez découvrir.
Dans le vieux faubourg, tout chargé d'amour, près du pont de la Villette, un soir je flânais, un refrain traîné, un air de valse musette, comme un vieux copain me prenant la main, il m'a dit viens, pourquoi le cacher, ma foi j'ai marché, et j'ai trouvé le petit bal du samedi soir, où le cœur plein d'espoir danse les midinettes, pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir, mais du bonheur plein les yeux de tous les amoureux, ça m'a touché, c'est bête. Je suis entré dans la fête, l'air digne et le cœur joyeux. D'ailleurs, il ne manquait rien, il y avait tout ce qui convient, des moules et du vin rouge. Au troisième flacon, ça bouge, au quatrième, on est bien. Alors, il vaut mieux s'asseoir, le patron vient vous voir et vous dit, c'est la mienne. Et c'est comme ça toutes les semaines, au petit bal du samedi soir. Vous l'avez deviné, j'y suis retourné, maintenant je connais tout le monde. Victor et Titi, Fernand le tout petit, Nénès et Mimi la blonde. D'ailleurs des beaux yeux, y en a tant qu'on veut, ils vont par deux. Les plaques dans les coins, on est aussi bien qu'au tabarin. Au petit bal du samedi soir, où le cœur plein d'espoir danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur des aveux, car tous les amoureux se montent un peu la tête. Quand l'accordéon s'arrête, ils vont s'asseoir de par deux. De temps en temps, un garçon pousse une petite chanson, ça fait rêver les filles. Dans le noir, il y a des yeux qui brillent, on croirait des petits lampions. Oui, des lampions merveilleux, du carnaval joyeux, de la fête éternelle. On serre un peu plus sa belle, au petit bal du samedi soir. Un dimanche matin, avec Baptistin, c'est le patron de la guinguette. On s'est attablé et nous avons joué au chemin de fer en tête à tête. Comme il perdait trop, il a joué le bistrot, j'ai dit banco. J'ai gagné ma foi et depuis 3 mois, il est à moi.
Le petit bal du samedi soir où le cœur plein d'espoir danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur plein des yeux de tous les amoureux, ça m'a touché, c'est bête. Je suis entré dans la fête, l'air digne et le cœur joyeux.
Bon, c'était Renaud.
C'était Renaud, le petit bal du samedi soir. Quelle super idée, on a eu, vachement original. On voudrait juste une petite précision sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu dis que tous les milieux dansent, tout le monde danse, etc. C'est très généralisé, géographiquement, socialement, tout ça. Mais est-ce que socialement, notamment, ou géographiquement, est-ce qu'il y a des circulations, des mouvements qu'on voit, genre des danses qui sont d'abord des danses plus de l'élite qui se diffusent dans le peuple ou en sens inverse? Comment ça se passe à cette époque-là?
Alors, à cette époque-là, les danses... enfin, sur lesquelles j'ai travaillé, elles s'intègrent à la société par le dancing. Donc le tango, c'est un peu un cas de figure à part parce qu'il arrive juste avant la Première Guerre mondiale et lui, il passe par le biais d'élites argentines présentes à Paris, des milieux de diplomates. Mais après la Première Guerre mondiale, c'est dans les dancing que ça va se diffuser et se médiatiser. Les dancing, ça, sous ce terme-là, on a plein d'établissements très différents. En fait, on a des dancing, donc pour Paris toujours, hein, des dancing aux Champs-Élysées, par exemple, qui sont des lieux extrêmement élégants, pour lesquels voilà, il faut payer une consommation assez chère pour pouvoir y accéder. On a des lieux très beaucoup plus populaires dans le centre de Paris qui peuvent prendre ce terme-là dancing parce que ça attire le chaland, parce qu'on sait que là on va avoir des orchestres qui jouent les nouvelles danses et donc le jazz bon qui va être c'est vraiment les soldats états-uniens hein, à la fin de la Première Guerre mondiale qui vont ramener ces sonorités là et ces rythmes là ça c'est vraiment dans le dancing que ça se passe et ça se diffuse jusque dans les bals musettes donc qui sont les bals qui préexistaient avant la Première Guerre mondiale où on dansait donc voilà la java, la valse musette, ces répertoires là vont très vite se mélanger, se métisser avec le tango, avec le jazz et voilà former ce qu'on appelle le jazz musette, le tango musette, enfin voilà la rumba aussi. Donc les genres musicaux et chorégraphiques, dont je parle de genres musicaux chorégraphiques, hein, je reprends cette appellation de Michel Plisson, un ethnomusicologue. C'est à la fois des danses et des musiques, quoi, se diffusent dans les différents milieux sociaux. J'évoquais le fait qu'il y a aussi des circulations de personnes d'un milieu à l'autre et qui font d'ailleurs un peu grincer des dents, un peu, parce qu'à la fois, on a cette pratique qui est massive, diffusée dans toute la société, et à la fois, il y a des discours réprobateurs par rapport à ces danses, comme c'est le cas depuis qu'il y a du bal, hein, donc depuis le Moyen-Âge, on pourrait même remonter encore avant sur les critiques de la danse dans l'Antiquité, mais en tout cas, depuis qu'il y a du bal, depuis le Moyen-Âge, il y a des critiques parce que c'est un lieu où se rapprochent les corps, parce que c'est un lieu où le contrôle social peut se dissoudre un petit peu, enfin voilà. Et là, dans les bals sur lesquels moi j'ai travaillé, c'est essentiellement des bals publics. Donc j'ai dancing, bal musette, tout ça, c'est des bals publics. À côté de ça, il y a aussi des bals privés, donc plutôt des élites, de la grande bourgeoisie, donc des bals où là, le contrôle social est plus fort, où on n'invite que des pairs, où il y a un système de surveillance quand même, on ne peut pas faire n'importe quoi. Au bal public, bah, en plus dans les années 20, c'est une époque où, malgré le fait que les droits politiques, les libertés politiques n'avancent pas pour les femmes, il y a des libertés... sociale et notamment en termes de motricité, les femmes sortent beaucoup plus seules, sans avoir un chaperon. Enfin, donc là, on voit que cette liberté-là, elle est présente dans ces bals publics. Je me suis un peu perdue par rapport à la question.
C'était sur la question des circulations géographiques et sociales. Et
donc, est-ce qu'on danse la même chose du coup dans ces bals publics et privés?
Alors, on danse souvent les mêmes choses, mais pas forcément de la même façon. Donc, les gens qui dansent dans les bals privés vont souvent avoir des cours de danse. Il y avait des cours de danse aussi dans les milieux populaires. Hein. J'ai travaillé aussi sur les publicités pour les cours de danse. Et donc, il y en a avec des tarifs vraiment du simple de 1 à 10, quoi, 10 fois plus cher. Donc, c'est pour dire qu'il y a des cours de danse adaptés aux différents milieux sociaux et dans différents quartiers. Mais la manière de danser peut changer et on le voit à travers notamment les manuels de danse où c'est quelque chose de prescriptif hein, comme ouvrage, mais où les leçons de danse par écrit, où on nous dit comment bien danser correctement, de façon élégante, de façon à se conformer à un idéal de la culture française. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'une sorte d'appropriation pour que cette danse soit correcte et élégante, alors qu'au dancing, le dancing est souvent récrié par donc, les conservateurs de tous bords. Ça peut être l'Église, ça peut être des écrivains nationalistes, enfin, qui vont dire qu'est-ce que c'est que ces danses qui viennent d'ailleurs, qui sont vulgaires, où on danse beaucoup plus serré que nos danses à nous, enfin nos danses à nous, voilà, qui sont en fait des danses qui viennent d'Europe orientale, mais voilà, qui ont
été... Ils faisaient déjà des mazurkas chamallows à l'époque ?
Alors chamallows, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait... Enfin, le tango, voilà, c'est l'emblème de cette danse où les corps se rapprochent, et ça, c'est quelque chose qui va choquer hein, beaucoup d'observateurs. Et puis, par exemple, pour les danses cubaines ou antillaises, comme la rumba ou la biguine, où on va se déhancher, c'est la première fois qu'on, tout d'un coup, le bassin va bouger publiquement. Et donc, par exemple, la biguine ne va pas rentrer dans les salons mondains de la bourgeoisie. C'est une danse qui va être dansée dans des dancing, mais peut-être, alors bon, ça c'est une hypothèse, mais parce qu'elle est aussi une danse qui vient d'une colonie française, hein, à l'époque les Antilles sont encore une colonie, jouée uniquement par des musiciens noirs, dansée d'abord dans les bals antillais, cette danse-là, elle va susciter beaucoup plus de critiques xénophobes que les autres, et ne sera pas accepté dans les salons.
Une question sur cette capacité phénoménale de l'Amérique à rebooster les musiques traditionnelles en Europe, parce qu'on sait que le revivalisme des années 70 s'appuie largement sur d'abord une fascination pour la musique américaine, Pete Seeger, le folk américain, tout ça. Mais ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est qu'à un moment donné, le bal traditionnel français musette est reboosté dans les années 30 par les musiques venues d'Amérique. Est-ce que tu penses que ce parallèle entre les deux est correct, et comment ça se fait que l'Amérique rebooste tout le temps ce qui se passe chez nous?
Ouais, je pense que c'est correct, et ça c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui marque une bascule hein, pour ça, parce que jusqu'à la Première Guerre mondiale, les modèles culturels ils venaient d'Europe, et donc en Amérique latine, aux États-Unis, enfin voilà, les référents culturels dont s'inspiraient en tout cas les élites, c'était des modèles européens. Et la Première Guerre mondiale marque une rupture très importante qui dure jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire. Hein, dans le domaine du folk, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement, on peut dire que ça participe d'un même courant et que l'inspiration vient d'outre-Atlantique. Mais c'est le cas aussi, si on travaille sur... Enfin, moi, j'ai pas travaillé de manière précise là-dessus, mais sur les bals après la Seconde Guerre mondiale, ça continue en fait le même mouvement. Donc avec, je disais samba qui revient, ensuite cha-cha-cha, mambo, rock'n'roll. On continue avec la salsa. Enfin voilà, donc c'est pas seulement états-unien, c'est aussi latino-américain, mais en tout cas le continent américain jusqu'au hip-hop, jusqu'au dance floor d'aujourd'hui est irrigué par cette influence d'outre-Atlantique.
Et en quoi, toi, tu vois les survival des années 70 participer de la même dynamique?
Alors, je ne sais pas si ça participe de la même dynamique. Okay. Là, je ne suis pas assez... je n'avais pas travaillé sur cette période-là, quoi. Mais parce qu'il y a aussi une influence anglaise, si je ne dis pas de bêtises, avec le revival des figures d'enseignants qui étaient présents en France et qui ont diffusé,
pour la danse.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est plus ce que je connais. Ouais, pour la danse effectivement, qui ont diffusé des danses, qui ont remis au goût du jour des danses ou inventé des danses. Hein, c'est aussi une invention de tradition dans une large mesure, mais en tout cas, c'est sûr que dans tous les domaines culturels, on le voit, hein, dans le domaine des arts plastiques, enfin, que l'Amérique devient quand même le modèle culturel, quoi.
On va faire une petite pause musicale et on reprend après.
Thank you.
Comme on a parlé de Musette, c'était le duo Hortense qui est un duo voilà, d'accordéon-violon, qui aime pas mal reprendre de Musette. Alors là, c'était des polkas polonaises suivies de la polka de Lanternaire.
Deux questions pour finir. La première question, c'est tu as dit que tu n'es pas une spécialiste du baltrad, mais que ça t'arrive de le pratiquer. Est-ce que tu vois des évolutions depuis un semi-extérieur? Est-ce que tu vois des évolutions au cours des 20 ou 30 dernières années dans le baltrad qui t'ont marqué?
C'est une bonne question. Je ne pense pas que je pratique depuis aussi longtemps les baltrades. Je peux dire ce qui me marque dans le baltrad. En général, peut-être pas une évolution, mais ce qui me marque par rapport aux bals sur lesquels j'ai travaillé dans l'entre-deux-guerres, c'est la présence de musiciens et de musiciennes. Et c'est un des rares milieux de bals aujourd'hui à avoir toujours des musiciens et des musiciennes. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie, en fait. Et je crois que c'est ça qui a suscité mon intérêt en premier pour les bals trad. C'est qu'il n'y a pas une playlist ou même un DJ. C'est super qu'il y ait des DJ dans d'autres types de bals, comme dans les bals tango. Mais c'est vrai que... là j'étais à un festival de tango à Firminy il y a pas très longtemps. C'est un festival avec 100% du live et ça n'arrive jamais en fait à part là quoi. Donc ça c'est une chose que j'apprécie beaucoup. Après un autre point commun que je vois avec la période, alors pas vraiment celle de l'entre-deux-guerres mais plutôt celle qui précède, c'est ce mix entre danse à deux et danse collective. Et c'est très appréciable et je pense que ça a contribué au succès des baltrades aujourd'hui, quoi. Le fait que en fait, tout le monde peut s'y retrouver parce qu'on, si on n'est pas trop fan de danse à deux ou qu'on on ne sent pas trop, y a les danses collectives et vice-versa. Donc ça, je pense que c'est vraiment un atout des danses, des baltrades aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à signaler là-dessus.
Ouais, moi j'ai une question bonus un peu sur l'apprentissage. Tout à l'heure, tu as évoqué les écoles de danse, etc. Comment dans l'entre-deux-guerres on apprend à danser par rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'on apprend sur le tas en allant au bal et on apprend avec les autres en regardant ce qu'ils font? Est-ce que c'est pas possible avec ces danses-là qui sont quand même, je connais pas beaucoup les danses américaines, mais qui sont très codifiées, chorégraphiées? Est-ce qu'on doit apprendre en atelier? Comment elle se fait cette pratique?
Alors c'est intéressant que tu dises ça parce que en fait elles sont pas chorégraphiées ni codifiées.
Donc, je connais très mal les danses.
En fait, c'est des danses d'improvisation. J'aurais peut-être dû dire ça plus tôt, mais en fait, c'est la première fois qu'on a des danses où l'improvisation est vraiment centrale. Parce que, avec les danses comme la valse ou la polka, on pourrait dire aussi que c'est des danses d'improvisation, mais il y a un pattern qui est quand même codé, quoi, et on refait toujours le même pattern, on refait toujours la même structure. Alors après, il y a des variations dans le style et tout ça, mais on est, en gros, tous les gens qui sont dans la salle sont en train de danser une polka et donc font le pas de polka, ou bien une scottish avec cette structure, avec quatre pas ou quatre sauts, etc. Bon. À partir de l'entre-deux-guerres, avec le foxtrot ou le tango, on est dans une danse où il y a comme un panel de pas possibles, et la personne qui guide propose au fur et à mesure des variations rythmiques, des variations de pas, à son bon vouloir d'improvisation. Donc c'est ça qu'on appelle improvisation dans le bal, quoi. C'est pas la même chose que l'improvisation en danse contemporaine, mais voilà, l'improvisation dans le bal. Donc c'est des danses où, voilà, donc on peut carrément apprendre sur le tas, comme tu dis. C'est vraiment ça, en fait, ce qu'il fait le plus souvent. C'est-à-dire que les gens viennent, observent, y a des copains, des copines qui leur montrent un truc, qui dansent avec eux, avec elles, voilà. Après, il y avait aussi des cours de danse, donc effectivement, il y a des gens qui sont passés par ces cases-là, quoi. Mais la majorité des témoignages, que ce soit écrits ou oraux, que j'ai pu avoir, les gens apprenaient avec leur père, P-A-I-R-S, quoi, avec leurs amis. Donc voilà, donc il y a des danses qui se transmettent de génération en génération, mais là, pour ces danses-là, vu qu'elles sont nouvelles, bah, c'était pas trop le cas. C'était plutôt avec les gens de la classe d'âge, quelqu'un avait vu danser quelqu'un d'autre, hop, on se transmet les pas, et voilà, ça se passait plutôt comme ça, quoi.
Ok, bah...
Eh ben on va dire merci Sophie, alors.
Merci de nous avoir éclairé sur cette période très riche.
Merci pour votre invitation.
Et on va te quitter, nous on reste ensemble pour la suite de l'émission, mais donc on voulait conclure ce sujet avec un morceau de Anne Nipold, Escadrille, qui est à l'origine un morceau de Joe Priva, mais qui a été réarrangé, vous verrez.
Parce que Musette's not dead.
Et oui, ça c'est le titre de l'album.
We'll be right back.
Et vous êtes toujours dans l'écho du parquet. C'était le rondeau de juillet suivi d'une marche coulée du groupe Edensia. Un morceau qui figure sur le premier disque du groupe, un EP de 6 titres qui vient de sortir après moult péripéties. mais ça y est, il est là. On est bien content et contente de l'avoir entre les mains, cette pochette rouge et bleue où deux diatonistes ont l'air de méditer dans les étoiles. Alors Edensia, c'est donc un duo qu'on connaît bien en Drôme-Ardèche, avec Tao Dumur à l'accordéon diatonique et Mathieu Meyer à l'accordéon diatonique. Et oui, deux diatos. Mais comme vous l'aurez remarqué sur ce morceau, avec une vraie complémentarité, c'est pas du tout redondant d'avoir deux diatos, je trouve. Mais le mieux, bon, c'est encore de les écouter, d'écouter leur musique en balle, bien sûr, et puis de les écouter en parler, puisque on les a interviewés. On a eu le plaisir de les recevoir dans l'émission numéro 10, où vous pouvez donc écouter Edensia, en savoir plus sur l'alchimie du duo, le processus de compo, leur vision du trad, du néo-folk, du néo-trad, du néo-néo-folk-trad et compagnie.
Et on va se dire, c'est fini, on va se dire bonnes vacances, hein, parce que c'est la dernière de l'année. Pour ceux qui en ont, oui, c'est ça, ou bon été, parce que ça, tout le monde l'aura. Et je sais pas vous, nous on va faire quelques festivals cet été, on pourra peut-être se croiser au détour d'un parquet ou d'un concert quelque part du côté pour nous du son continu, des basaltiques, voilà, et puis peut-être d'autres un petit peu. Et puis nous, cet été, on va partir en Grande-Bretagne.
C'est bien, on vous raconte nos vacances. Voilà, après, bien, la rentrée, on vous racontera comment c'était.
c'est un peu ça. Parce qu'on va partir en Grande-Bretagne pour faire quelques festivals, dont le Sidmouth Festival et le Festival d'Édimbourg. Et avec un chemin entre où on essaiera de prendre des sons pour vous faire un peu une spéciale sur l'état des danses ou de la musique traditionnelle en Grande-Bretagne. Et pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de nos vacances à nous, on va vous proposer de finir par quelque chose qui est très très typiquement écossais. C'est un disque qui est enregistré au Royal Oak, qui est le pub spécialisé dans les musiques trad et folk à Édimbourg. Et donc ils ont sorti un disque Best of Folk au Royal Oak, et sur ce disque il y a un groupe qui s'appelle The Lord, The Gipsy and The Wench, que je ne connais absolument pas, qui chante un titre de Gipsy Laddie avec un accent à couper au couteau qui nous mettra vraiment dans l'ambiance. Voilà, bon été, bonnes vacances à ceux qui en ont, et on se retrouve à la rentrée.
There were three old gypsies came to our hall door. They came brave and boldly, oh. One sang high and the other sang low, and the other sang a raggle-taggle gypsy, oh. It was upstairs and downstairs the lady went. She put on her suit of leather, oh. It was the cry all around his door. She's away with the raggle-taggle gypsy, oh. The raggle-taggle gypsy, oh.
Well, saddle for me my milk-white steed, for my big horse is not speedy, and I will ride and seek my bride. She's away with the raggle-taggle gypsy, oh.
And my land. What do I care for money, oh? What do I care for me only wedded lord? I'm away with my raggle-taggle gypsy, oh. What do I care for my goose feather bed? What do I care for blankets, oh? Tonight I will lie in a wild open field in the arms of my raggle-taggle gypsy, oh. Often you rode east and I rode west. You rode high when I rode low, and I'd rather have a kiss on the yellow gypsy's lips than all of the cash and the money, oh. Rather have a kiss on my yellow gypsy's lips than all of the cash and the money. Ooh.